David Rigolet-Rose, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, en ce jeudi, la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, a accusé la Russie de fournir du renseignement à l'Iran qui est utilisé pour tuer des Américains au Moyen-Orient. Elle a exhorté Washington à exercer plus de pression sur Moscou. David Rigolet-Rose, une preuve de plus du lien qui unit la Russie et l'Iran, deux pays en guerre.
Oui, alors ces liens ne sont pas nouveaux. Il faut replacer la déclaration de Kaya Kallas dans le contexte de ce qu'a été la guerre en Ukraine, puisque justement les Européens reprochaient à Donald Trump de pas prendre suffisamment la mesure de la capacité de nuisance de la Russie. Et donc effectivement la Russie et Moscou et Téhéran entretiennent des liens de longue date, d'ailleurs avec un accord de partenariat qui a été signé le 17 janvier 2025, qui approfondit des liens préexistants, mais qui ne comprend pas de clause de solidarité à caractère militaire. Et on voit les limites, effectivement, de cette relation entre Téhéran et Moscou.
Alors, le Financial Times et Volodymyr Zelensky ont accusé aujourd'hui la Russie de commencer à livrer des drones à l'Iran, et ces livraisons progressives devraient être terminées d'ici la fin du mois. À quel point cette livraison de drones pourrait changer la donne ?
Oui, alors en fait, c'est assez paradoxal, puisqu'initialement, au début de la guerre en Ukraine, c'est l'Iran qui avait livré des drones Shahed 136 à Moscou, qui avait un déficit de drones, justement, même si aujourd'hui, il y a une production, effectivement, russe qui s'est développée dans une usine au Tartarstan, à partir du modèle du Shahed, c'est le Goran russe, et aujourd'hui, il y a un retour, justement, du drone modifié, amélioré russe, en Iran, qui effectivement utilise très largement les drones. Alors, c'est justement par rapport au drone initial, c'est notamment sur la capacité de brouillage et de trajectoire, et donc qui est une amélioration du modèle initial iranien. Donc, d'une certaine manière, c'est la Russie remercie à sa façon l'aide apportée par l'Iran dans la guerre en Ukraine.
L'Iran est affaibli, la Russie semble également affaiblie. Est-ce que les deux se tirent vers le bas, si j'ose dire ?
Les deux sont des pays parias, objectivement parlant, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à des sanctions internationales, la Russie comme l'Iran. Et donc, effectivement, il y a une solidarité, on va dire, des pays parias sanctionnés. Et on retrouve d'autres pays dans la même configuration, comme la Corée du Nord, par exemple. Donc, et comme par hasard, la Corée du Nord se retrouve dans une triangulation, effectivement, avec Moscou et Téhéran. Donc, il y a incontestablement, de la part de Moscou, le souci d'assurer un soutien politique qui a été réaffirmé publiquement à Téhéran. Sinon davantage, alors il y a une aide humanitaire qui est censée transiter par la République d'Azerbaïdjan, avec des suspicions sur le caractère non humanitaire d'une partie de cette aide. Et là, on retrouve ce que vous évoquez sur la question des drones Shahed, des drones kamikazes améliorés par les Russes. Et puis il y a la question de la fourniture de matériel, notamment de 500 lanceurs. Au profit de Téhéran, mais il y a quand même des limites, notamment le système S-400, le plus performant des Russes, anti-aérien, n'a pas été livré. Les Russes ne veulent pas manifestement livrer ce système S-400. Donc il y a des limites, et ça entretient d'ailleurs des relations parfois, on va dire, en demi-teinte entre les deux capitales, parce que les Iraniens ont la mémoire longue, même s'il y a une coopération effectivement affichée de manière ostensible, la mémoire longue, ça renvoie à la période de la guerre, d'abord, la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu une occupation par les soviétiques de la partie nord de la Perse à l'époque, et puis par la suite, l'ambiguïté russe sur le théâtre syrien, où il y avait eu un accord tacite entre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou sur la possibilité de frapper justement les milices pro-iraniennes, sinon les gardiens de la révolution présents au sol, en soutien au régime de Bachar al-Assad. Il y avait un découplage en fait du système anti-aérien qui était ségrégué de manière délibérée parce que, à la demande expresse des Israéliens qui maintenaient des relations justement avec Moscou.
Alors, vous parlez de relations en demi-teinte. Est-ce que possibilité hein, que des drones ou que ces systèmes de défense que vous évoquez ne soient pas livrés à l'un ou à l'autre, cela pourrait mettre de l'eau dans le gaz entre les deux pays?
Non, les drones vraisemblablement seront livrés. Il y a aussi, vous évoquiez au début, le transfert d'informations, de ciblage, justement. Puisque ça fait l'objet de spéculations, ça n'a pas été démenti par les Américains, et on peut penser que certaines réussites de ciblage de la part des Iraniens sont pas étrangères à des informations reçues de Moscou. Donc il y a des relations effectivement, et Moscou considère que c'est une manière effectivement de aussi d'enfoncer un coin par rapport à la situation en Europe avec la guerre en Ukraine. Mais elles ont ces relations sont quand même empreintes, on va dire, de méfiance, sinon parfois de défiance, comme je l'ai évoqué à propos de la Syrie de Bachar al-Assad. Et en tout cas, il y a même certains responsables iraniens qui vont même jusqu'à finalement accuser Moscou d'une forme de duplicité. C'est jamais explicité comme tel, mais des rumeurs font état effectivement d'un mécontentement de Téhéran par rapport à la position de la Russie, qui serait pas aussi ferme au profit de Téhéran qu'affiché.
Alors, je le disais en introduction, Kaya Kallas a exhorté Washington à exercer plus de pression sur Moscou. On a vu, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Donald Trump plutôt ménager le président russe Vladimir Poutine. Est-il capable et va-t-il le faire, exercer plus de pression sur Moscou?
Oui, c'est pas exclu, parce que de toute façon, là, il y a une configuration avec l'opération militaire sur l'Iran qui oblige Donald Trump à certains ajustements. Des ajustements qui sont pas forcément purement contingents, mais sans pour l'instant aller jusqu'à remettre en cause effectivement une certaine une position relativement compréhensive vis-à-vis de Vladimir Poutine, je mets le mot entre guillemets, parce que en réalité dans la stratégie américaine et de la Maison Blanche, la Russie n'apparaît pas, et on le voit avec la nouvelle doctrine de sécurité nationale, n'apparaît pas comme l'ennemi principal, ce qui n'est pas le cas de la Chine. Or, on retrouve évidemment la Chine dans la configuration actuelle iranienne, puisque la Chine achète l'essence, 85% du pétrole iranien, justement décoté, et la Chine est effectivement a aussi des relations étroites de partenariat stratégique depuis 2021 avec Téhéran. Donc on voit que c'est un ensemble de pièces géopolitiques qui s'ajustent les unes les autres, comme un kaléidoscope en fait, qui se modifie en fonction de l'évolution de la situation.
Pour terminer, David Rigoulet-Rose, vous l'avez évoqué dans une de vos réponses, évidemment la guerre en Ukraine qui dure maintenant depuis un peu plus de 4 ans. Est-ce que la Russie est affaiblie justement de par son aide à l'Iran sur son front ukrainien?
Elle est affaiblie par son engagement en Ukraine, pas du fait de son soutien à Téhéran. C'est la guerre en Ukraine, de toute façon, qui effectivement affaiblit mécaniquement la Russie, compte tenu des gains qui sont plutôt limités au regard des pertes qui sont colossales. Même si effectivement la question effectivement iranienne peut s'ajouter à cet affaiblissement, mais en réalité, c'est plutôt du point de vue de Moscou, c'est plutôt vu comme une opportunité de renforcement de son statut par rapport à ce qui est perçu comme l'adversaire fondamental, à savoir les Occidentaux et l'OTAN.
David Rigoulet-Rose, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka, et à bientôt.
Merci.